Verbomoteur.
Aujourd'hui au Verbomoteur, qu'est-ce que la véritable dignité humaine? Le 8 avril dernier, le Vatican a publié un nouveau texte signé par le pape François consacré au respect de la dignité humaine. Fruit de 5 ans de travail, le document intitulé « Dignitas Infinita », en français « Une infinie dignité », a soulevé bien des critiques aussi bien à droite qu'à gauche du spectre politique. Antoine Malenfant, est-ce que tout le monde normalement n'est pas pour la dignité humaine? Mm-hmm. Comment est-ce que le pape a réussi à déplaire à peu près à tout le monde avec un texte sur ce sujet?
Bon, on parle du pape, là, mais ce document-là a été mené, tout le processus de rédaction a été mené par le préfet du désormais dicastère pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Le pape a, oui, mis son sceau ultimement à ça, mais c'est Fernandez qui a mené tout ce bateau-là pendant 5 ans. Hein? 5 ans pour rédiger 12 pages, là, je sais pas, des fois au cégep, là, on a un essai à faire en 12 pages, puis ça prend toute une session, puis on trouve ça
peut-être
long.
Peut-être qu'il y a des problèmes de procrastination au Vatican aussi.
Non, tout ce monde-là a travaillé, sont retournés voir le pape. Le pape leur a demandé de refaire leurs devoirs 2-3 fois, et tout ça est présenté de manière très transparente dans les premières pages, dans la présentation du document.
Il nous donne toutes les versions, moi, ça m'intéresserait.
Et presque, ouais. Parce qu'on dit, bon, le pape aurait dit, par exemple, retournez lire Fratelli Tutti, une encyclique que j'ai écrit il y a quelques années. Vous allez avoir des éléments intéressants sur la dignité qui devrait apparaître dans ce document-là. Donc, on voit une espèce de jeu de ping-pong qui a eu lieu entre ce dicastère-là et le pape sur cet enjeu-là central de la dignité humaine. Bon, pour répondre à ta question, Simon, la dignité humaine, tout le monde est pour, hein? Tout le monde est pour les bonnes choses de la vie, évidemment, mais de quoi on parle?
Si on est contre, en tout cas, on le dit pas, là.
Ouais, c'est ça, on reste tranquille.
De quoi on parle quand on invoque ce mot, dignité humaine? Est-ce que c'est défini, ça, dans le document?
Bien sûr, hein, les premiers paragraphes, là, s'attarde à bien définir de quoi il est question. C'est un terme qui est équivoque, donc il y a plusieurs sens. Donc, il faut bien définir chacun de ces sens-là. Évidemment, quand on parle de dignité humaine, de sauvegarde ou de protection, de défense de la dignité humaine, ce que l'Église entend, ce que le pape entend, c'est la dignité ontologique, c'est-à-dire la dignité des personnes par le simple fait qu'ils sont des êtres humains. Et ça, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que ça dépend pas de ta condition sociale, ça dépend pas de ton sexe, ça dépend pas de ce que les autres pensent de toi, c'est pas quelque chose qui est attribué à
quelqu'un. De ton état de santé,
de ton état de conscience mentale.
De ce que tu fais ou ça, en quoi tu crois.
De ce que tu fais. Alors, évidemment qu'il y a une dignité morale aussi, c'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on pose, des comportements qu'on peut avoir, qui sont indignes, dans le fond, qui sont indignes de notre dignité intrinsèque. C'est un peu
le
complexe.
Le criminel là. Conserve sa dignité humaine,
même si
s'il a attaqué la dignité des autres.
Oui, d'une part, et même si ses actes sont indignes, sont horribles, hein, sont indignes de ce que devrait être un être humain. Alors, le criminel garde sa dignité, la victime garde sa dignité, c'est inaltérable, inaliénable, la dignité humaine.
Et c'est ça qui dérange.
Bon, ce qui dérange, c'est que les implications de cette définition-là sont assez larges, et c'est ce que fait la deuxième partie du document, Dignitas Infinita, le pape, et bon, par le biais du dicastère de la doctrine de la foi, définit ou, donne plusieurs exemples de menaces à cette dignité-là, à la dignité humaine, pas en tant que ça pourrait égratigner la dignité, mais que ça pourrait égratigner la reconnaissance de cette dignité-là. Voyez-vous ce que...
Ouais, donnez-nous quelques exemples, peut-être, comment la dignité humaine est attaquée aujourd'hui. Bon,
évidemment, on parle de violence contre les femmes, abus sexuels, travail des migrants, c'est des thèmes chers au pape François. Bon, je le souligne, là, quand il parle d'abus sexuels, il dit on doit commencer ce travail-là même au sein de l'Église, là, c'est évident. Et ça se fait d'ailleurs de mieux en mieux dans ces dernières années.
Jusqu'ici, tout va bien, là.
Dis tout va bien, mais j'imagine quelques Américains que la dignité des migrants, ça peut être difficile à recevoir.
Bon, le travail des migrants, on peut penser aussi. Hein, il y a plusieurs pays, par exemple aux Émirats arabes unis ou dans certains coins du monde où on fait venir des travailleurs d'Asie du Sud-Est qui n'ont pas une pleine participation à la vie sociale, qui sont considérés, on va pas le dire comme ça, il y aura pas de texte officiel qui va le statuer comme ça, mais comme des humains de classe inférieure ou de caste inférieure. Alors ça, c'est que le problème, finalement, dans ces attaques à la dignité-là, c'est qu'elles réduisent la personne ou l'être humain à un de ses attributs. Dans ce cas-là, à sa force de travail. Il y a aussi, dans ce document-là, et c'est ce qui fait réagir beaucoup, des menaces à la dignité humaine. Le pape évoque l'avortement, l'euthanasie, les personnes handicapées, les violences numériques, la théorie du genre et la gestation pour autrui. Et c'est là qu'on s'imagine bien que des chemises vont se déchirer, là.
Le pape, si je te suis bien dit, un enfant qui soit dans le ventre de sa mère ou en dehors, il a la même dignité. Un souffrant, un mourant, c'est pas parce qu'il souffre plus qu'il est moins digne.
Tout à fait. Pour ce qui est de la gestation pour autrui aussi, qui est plutôt acceptée là, dans nos sociétés occidentales, faut pas oublier qu'on réduit l'enfant à l'objet d'un projet parental. Il n'est plus accepté en tant qu'un don, mais en tant qu'un presque d'un produit qu'on peut prendre du ventre d'une mère et envoyer dans une autre famille.
Objet de commerce.
Objet de commerce même parfois.
Et pour la théorie du genre?
Pour la théorie du genre, c'est intéressant. Évidemment, le pape commence ce paragraphe en soulignant que la dignité de la personne qui vit, par exemple, une transition de sexe n'est en aucun cas altérée. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître en tout temps la dignité de toutes les personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Et c'est important que l'Église le souligne parce qu'il y a bien des endroits dans le monde où il y a des violences importantes qui sont faites envers cette personne-là. Mais il y a une autre violence aussi qui est celle d'encourager, par exemple, des bloqueurs de puberté. Le document en parle comme ça, des bloqueurs de puberté pour des adolescents. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire la personne finalement à son ressenti et à une âme ou à un esprit au mépris de son corps. C'est-à-dire qu'on peut pas transformer le corps qui est un donné, qui est un cadeau finalement et qui est indissociable de cette dignité-là. On peut pas séparer le corps et l'âme comme l'on fait par exemple certaines spiritualités ou certaines philosophies antiques aussi facilement que ça, sans altérer la dignité ou sans du moins la menacer.
C'est ça. Puis en l'occurrence, dans le contexte de la théorie de genre, lorsqu'il y a une distinction corps esprit, ça repose aussi sur une fausse compréhension de ce qui est l'âme ou l'esprit. Là.
Alors, je vous invite, au lieu de lire là, ce que les grands médias en disent là, de ce document-là, au lieu d'écouter ma chronique, allez lire le texte, vous allez voir que c'est quelque chose de très équilibré et qui, finalement, est un appel vibrant à respecter toute personne et la dignité de chaque personne en tant qu'être humain, tout simplement.
Alors, on mettra ce document du Vatican en lien sous les réseaux sociaux de l'émission. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
C'est le moment de notre suggestion culturelle de la semaine. James Langlois, tu as aimé un documentaire qui s'appelle Anticosti, l'école du bonheur. Alors, c'est plus le bonheur, Anticosti ou l'école que t'aimes là-dedans?
Tout ça.
Tout ça?
Non, mais pour ceux qui ont lu notre magazine de janvier, savent que je suis allé à Anticosti faire un reportage, puis j'étais à même de voir tout le rôle et l'effet que cette école, en ce moment, avait sur le village, sur la communauté. Il y a même un couple qui fait partie de mon reportage et qu'on voit dans le documentaire. Et donc, c'est un très beau film de 50 minutes, là, qui a été réalisé par Pauline Voisard, une réalisatrice québécoise assez bien connue, et qui, justement, passait un certain temps à Anticosti pour voir tout le processus, tout le déroulement des journées de ces enfants-là. Et c'était quoi l'originalité de cette école-là qui s'adapte vraiment bien au contexte particulier de l'île. Et c'est très touchant, c'est très bien fait, c'est très beau en fait, parce que moi, ça m'a touché quand je suis allé là de voir que dans une toute petite communauté là qui compte à peine une trentaine d'élèves, mais a cette école-là au centre de sa vie et qui même à l'avant-garde...
C'est capoté comme ils sont...
Pédagogiquement.
C'est très concret les apprentissages. Sont tout le temps dehors. C'est de toute beauté.
C'est ce qu'on rêverait pour toutes les écoles du Québec. Là.
Et donc, ça s'appelle Anticosti, l'école du bonheur. C'est disponible sur ici-tout.tv.
Exact.
C'est bien ça. Merci beaucoup, James Langlois. Cette semaine, on se laisse sur le tout nouveau Control the Idle Youth and Repose, sorti le 4 avril dernier de l'auteur-compositeur-interprète québécois Matt Olubowski. Matt Olubowski, James, deux, trois mots sur lui?
Je pense qu'il a remporté la voix là, il y a plusieurs années, mais bref, après, c'est un peu ça que je sais plus s'il a remporté, mais bref, il a participé et qui a lancé, je pense, sa carrière. Là, il était en son troisième album. Il reste quand même un peu alternatif au Québec, mais moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et je trouve qu'il a une qualité artistique vraiment remarquable.
Matt Olubowski, donc on va écouter ça. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours nous écrire à verbomoteur à commercial@letredunionverbe.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, des objections aussi. On prend tous vos messages. Merci à Barthélémy Rieux, Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.
C'était les Verbomoteurs avec Simon Lessard et son équipe.